Alors qu'il y a 48 heures, Xi Jinping et Joe Biden ont eu 2 heures d'entretien téléphonique au cours duquel le président chinois a averti son homologue américain de ne pas jouer avec le feu à propos de Taïwan. Ce 29 juillet, le président chinois s'est entretenu par téléphone avec son homologue iranien Ebrahim Raisi. Xi Jinping a souligné que les deux pays devraient continuer à se soutenir résolument sur les questions concernant les intérêts fondamentaux et les préoccupations majeures de chacun, ainsi qu'à défendre la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres, une norme fondamentale dans les relations internationales. Comment peut-on analyser les relations bilatérales des deux pays dans la conjoncture actuelle où la Chine a de grands différends avec les États-Unis dans l'affaire taïwanaise?
Alors, on ne peut s'empêcher de repenser immédiatement à la discussion, conversation semi-privée entre le président Raïssi et le président Poutine, alors que ce dernier s'apprêtait à repartir à Moscou lors du dernier sommet tripartite, où s'il y a une phrase qui est ressortie plus que tout autre, c'est le fait qu'il fallait renforcer les alliances et se préparer à tout contre l'agression de l'Occident collectif. Donc maintenant, nous avons affaire, effectivement, après l'épisode ukrainien et la campagne de pression maximale exercée à l'encontre de la République islamique d'Iran depuis maintenant 2018 et au-delà de ça, depuis 42 ans, bien sûr, à une provocation, la dernière en date, par une administration américaine visiblement aux mains de gens qui se cachent derrière la personne de Joe Biden, lequel n'est bien sûr qu'un masque, vis-à-vis de la Chine, République populaire de Chine. Rappelons pour nos auditeurs que la République populaire de Chine, suite à la visite d'Henry Kissinger en 1972, a entériné avec les États-Unis d'Amérique la politique dite de One China Policy, ce qui veut dire que la Chine ne fait qu'un, et ça inclut Taïwan et Hong Kong. Taïwan anciennement Formose, hein, colonie britannique s'il en est, anciennement colonie britannique. Et donc ces provocations répétées depuis un certain temps, non seulement vont à l'encontre de ce consensus accompli en 1972, qui est devenu maintenant une politique d'État, hein, officiellement en tout cas reconnue aussi bien par les États-Unis que par la République populaire de Chine, et malgré tout sous l'égide des néoconservateurs en déshérence, ou en tout cas en roue libre, on va dire, prêts à déclencher des conflits à droite à gauche, hein, donc auteur de la politique du chaos comme on les connaît, nous assistons à une série effectivement de provocations permanentes. Et la dernière en date se trouve être l'annonce de la visite par, comment on dit en anglais, the speaker, donc le en français on dirait le porte-parole de la Chambre des représentants américains, donc Nancy Pelosi, qui n'a pas un rôle officiel au sein de l'administration Biden, mais qui néanmoins n'est pas non plus n'importe qui. C'est quand même le troisième, on va dire le quatrième personnage de l'État, après le président des États-Unis, le vice-président, le président du Sénat, et donc elle, le président, la présidente de la Chambre des représentants, donc le quatrième personnage de l'État fédéral qui, complètement hors contexte, alors que ce genre de visite n'a absolument aucune relation, aucune cohérence avec ses attributions, décide comme ça, de nulle part, de rendre visite donc à Taipei, aux autorités locales de Taipei. On présume pour leur exprimer son soutien. Hein. C'est difficile de nos jours de comprendre non seulement l'aspect stratégique, juridique, voire même le contenu politique, hein, de ce que font les principales figures, personnages de l'État fédéral américain, mais toujours est-il que voilà. Elle a donc décidé d'aller à Taipei, et dans ce contexte précis, Le ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine a exprimé bien sûr son indignation et son rejet de cette provocation. La sémantique est allée jusqu'à laisser entendre que de telles provocations ne resteraient pas impunies et que la réponse serait décisive, voire de nature à vraiment exprimer un rejet total de ce qui peut être ce qui peut faire figure de politique étrangère pour le gouvernement fédéral américain. On apprend encore aujourd'hui que des exercices militaires à balles réelles seront mis en œuvre prochainement, probablement en anticipation de cette visite. On apprend également que les États-Unis d'Amérique ont décidé d'envoyer un porte-avions dans le détroit de la mer de Chine méridionale, ainsi que Bill Clinton l'avait fait en 1997, déjà lors d'une provocation, déjà il y a 25 ans de cela. Mais les temps ont changé et la République populaire de Chine a maintenant les moyens militaires, à tout le moins au niveau régional et eu égard spécifiquement au rattachement de cette province renégat de Taïwan, de faire valoir sa souveraineté une fois pour toutes. Et les États-Unis seraient bien inspirés de prendre en compte ce positionnement, somme toute, assez clair et sans ambiguïté de Pékin. Parce que Pékin, maintenant, a compris qu'elle avait affaire à une administration américaine fédérale complètement sous contrôle idéologique de gens qui ne vivent que par le chaos. Et qui, partant de là, ont décidé que la Chine, si on s'en tient aux documents officiels du Pentagone, est pas forcément un rival stratégique, mais même une menace, un ennemi, hein. Une des raisons pour lesquelles le budget du département de la défense américain a maintenant été élevé à 850 milliards de dollars. Et donc, partant de là, Pékin n'a pas l'ambition, l'intention, en tout cas, de reculer. Hein. Et il faudra, de toute évidence, garder un œil sur cette séquence, parce qu'après l'Ukraine, on risquerait bien fort, d'ici le mois de septembre, d'avoir un nouveau foyer de déstabilisation, cette fois-ci dans la mer de Chine. En mer de Chine. Nous assistons à une administration américaine, encore une fois, en perdition. L'économie s'effondre, l'inflation explose. C'est un coup d'État par l'establishment, l'État national sécuritaire dirigé par le Pentagone et les centres de réflexion néoconservateurs qui maintenant tiennent le haut du pavé. La démocratie américaine est morte. Et en l'État, pour faire diversion, ils sont capables de tout. Et Pékin le sait. Et c'est dans ce contexte qu'il faut maintenant interpréter cette dernière provocation de Washington.